podcast.com. Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, bienvenue à Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. J'ai très hâte, puisque si on a fait une grosse tranche de lore la semaine passée, on va y retourner cette semaine dans la guerre des frères. Cette fois-ci, ça va être flanqué par Andy Jacques. Salut Andy!
Comment ça va? Ça fait longtemps.
Ben oui. Content de te revoir à Terrain Basique. Comment va ton aréna ces temps-ci? Es-tu réinstallé?
Non, désinstallé, j'ai des cristals à quelque part qui attendent. Arena doit capoter en faisant « Voyons, Chris, quelqu'un qui ne gaspille pas de cristal, je comprends.
Ben, » okay. C'est clair que t'es redescendu à bronze.
Ouais, puis en ce moment, ouais, j'ai jamais vraiment monté, fait que je me rends jamais super loin.
Ben là, la prochaine fois, ça va être facile, là, quand t'es à bronze, c'est facile là, de gagner.
Si tu les as en poche.
Sinon, ben c'est Jason que vous avez entendu, notre sphinx. Salut Jason.
Hey, salut Tommy, on continue la suite de la semaine passée tout à l'heure. Je me rappelle, Andy, tu m'as déjà dit que tu étais un gros fan de Sir Angel back in the day.
Ouais.
Ouais, c'est, on va parler de ça ce soir. Ce soir, c'est la rencontre entre Urza, Xantcha et Serra. Deux personnages dans la vie de Urza qui ont changé sa vie. On est dans un triangle ce soir?
Ah, on peut dire ça comme ça.
Un triomphe.
Avant d'aller plus loin, je veux dire bonjour à Jonathan Gauthier. Oui. Salut Joe.
Salut tout le monde.
C'est toi qui as choisi la trame sonore ce soir. C'est quoi qui est en train de jouer?
Ce qu'on écoute aujourd'hui, ce soir, c'est Tamaskete, Jupiter 92, qui est une trame sonore d'un jeu de Commodore écrit par un gars de heavy metal hongrois. Le jeu n'existe pas. Donc, il en a profité plusieurs années plus tard pour distribuer le soundtrack gratuitement, puis j'ai ajouté.
OK, parce que la trame sonore était composée, mais ils n'ont jamais sorti le jeu.
Jamais. C'est tombé dans les limbes. Puis,
okay. C'est pas plutôt que c'est comme le concept de son album. C'est genre, je fais comme une trame sonore d'un faux jeu, c'est pas ça?
Dans les commentaires que j'ai lus, il a fait littéralement ça à l'époque, puis okay. Il a retrouvé ses tapes. Là.
OK, cool.
Ah, c'est
cool.
Fun, ça.
Bon. On écoute ça, voilà. Vous avez des nouvelles en commentaire.
Vous allez savourer ça en background, puis de quoi qu'on parle, Jason, là, tu peux te lancer.
Hey, la semaine passée, là, on avait enregistré avec Jonathan, puis après ça, j'ai dit, est-ce qu'on joue à Magic? Puis là, il m'a dit, ouais, on va jouer. Fait que là, on a joué à Magic par webcam, et il m'a calissé une volée, mesdames et messieurs, c'était quelque chose. Puis je voulais que Jonathan, ton premier pas dans Terrain Basique, tu vas nous présenter avec quoi tu m'as pété la gueule la semaine passée.
Le concept du deck est basé sur Blasphemous Act, qui est un staple rouge. J'aime bien la carte parce qu'ils ont fait un Secret Lair avec des illustrations classiques des films d'horreur des années 60, fait que ça me faisait triper. Puis, bon, à partir de là, on s'entend que Blasphemous Act fonctionne.
Qu'est-ce que ça fait, Blasphemous Act?
13 de dégâts à toutes les créatures en jeu. Fait que c'est un board wipe très rouge qui fait des dégâts. Qui, le casting cost qui est très élevé de 9, réduit par la quantité de créatures en jeu.
Oui, OK.
Jason jouait Winnie White. Fait que ça a donné comme ça.
Ça l'a aidé pas mal. Je veux juste souligner que l'important dans cette carte-là, c'est faire beaucoup de dégâts.
Hein? Beaucoup de dégâts. Fait que,
plus de créatures possible.
Le plus de créatures. Puis à ça, pour la majorité du deck, après ça, c'est simplement exploiter le plus possible la mécanique que j'appelle le Mog Maniac mécanique. Une créature Mog Maniac qui, en gros, le dégât qu'elle reçoit, il y a un trigger ability que tu peux faire. Tu peux. Le Mog Maniac mange le dégât, puis la quantité de dégâts qu'il a mangé, il fait d'en face d'un adversaire de ton choix. Fait que tu fais un board wipe, tu fais 13 à tout le monde. Mog Maniac mange 13.
Ah, ben oui.
C'est comme mon deck de répercussion.
Ben tu peux. À ça, comme j'ai dit, un des problèmes du rouge, c'est que on pige. On a de la misère à piger en rouge. mais je veux qu'il y ait toujours constamment le plus de créatures en jeu. Fait que j'utilise Humble Defector. Humble Defector te permet de piger deux cartes et le donner à l'adversaire de ton choix. Fait que tu piges deux cartes, tu continues à avoir le plus de créatures possible en jeu. Puis, les chances sont que s'il pige deux cartes, il va sûrement rajouter d'autres créatures ou whatever, ou sinon t'en profites pour faire ton board wipe.
Ça, c'est bon parce que ça te permet de creuser le plus rapidement possible à Blasphemous Hack. Là. Ouais, parce que là, tu me le donnais à moi, puis j'étais trop tenté de l'utiliser. Fait que là, j'allais me chercher deux cartes. Je savais pas, je mettais mes créatures. Quand ça a sorti, ça l'a fait mal. C'est pas mal cool.
C'est pas mal cool. Puis à ça, on veut rajouter comme un petit peu de saveur, un petit peu de cannelle sur le dessus. Fait que je suis allé chercher une carte beaucoup plus récente avec Taraf, Gold of Fury. C'est un mur de texte. Je vais juste simplifier. Ça donne Trample au Burn Damage. Fait que si tu fais une Fireball de 20 sur un 1-1, ton 20 de dégâts de la Fireball a Trample. Fait que comme on parlait au début, Blasphemous Act, 13 de dégâts à toutes les créatures, Trample.
Wow. Ouais, tu t'assures que même si la personne a 100 points de vie, ça change rien.
C'est mieux de pas avoir de monstre ou t'exiles ton propre monstre avant que la boule de
ouais,
fou.
Ouais.
L'autre est fourré, si c'est plus quoi.
C'est pas mal ça la mécanique du. Ça passe à toi. C'est assez solide, ça fonctionne. Ça fonctionne bien en multiplayer, puis ça fonctionne relativement bien en single player, dépendamment de ce qu'on joue. Puis
il y a toutes sortes de monstres aussi qui ont ce pouvoir-là depuis. Là. Il y en a un qui coûte 3 mana hybride rouge-blanc. Puis
ouais, il Barras.
Aussi, j'en avais un deck comme ça, mais avec l'enchantement répercussion. C'est un vieux que j'ai fait dans le temps quand ils ont sorti un enchantement flashback qui fait 13 de dommages là, à une créature là, seulement. Là. Ça s'adapte. Si j'étais jeune et fringant, c'est vrai 80 livres.
C'est un colorless 2 rouges. À chaque fois qu'une créature fait du dégât, ton répercussion fait exactement le même.
Exactement. À son contrôleur.
C'était dans Urza Destiny. Hein.
J'avais un combo, attends un peu, avec une créature qui coûte 1 rouge, 2 colorless de Alliance, qui a comme cumulative upkeep, que tu fais un cerf à l'autre, tu y fais un à l'autre.
Vorchild Rider.
C'est ça. Puis je mettais des Header Flash qui fait qu'à toutes les fois qu'il y a une créature qui arrive en jeu, ça reçoit 2 de dommages. Puis là, il y avait répercussions. Fait que là, mettons, j'étais rendu à mettre 7 créatures en jeu sur le contrôle d'un joueur. Puis là, ça, il faisait 14 de dommages. Puis le tour d'après, je pouvais faire 16 de dommages à un autre. Ça a pas marché souvent, mais quand ça marchait, c'était le fun.
Puis avec quoi tu contrôlais parce que là, ça donne des tokens à ton adversaire en cumulative upkeep. T'avais-tu comme de quoi pour... Si tu sortais pas ton répercussion, tu pouvais au moins te débarrasser des Winnie ou tu t'offres.
J'avais beaucoup de Aether Flash, là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Là. Non, en rouge. Non, c'est 2 rouges, 2 colorless, puis ça fait 2 dommages à chaque créature quand elle arrive en jeu.
Ah, okay,
j'en avais beaucoup de ça, fait que c'était rare que c'était un problème. Là.
Ah, c'est cool.
Bon, écoute,
on est dans le Burn Damage ce soir. C'est,
ben oui.
Fait que, écoute, je me lance.
Let's go, c'est.
Donc, quand on s'est laissé la semaine passée, c'était, tu sais, j'avais fait toute Antiquities. Puis, là, cette semaine, ben, je veux dire, à la fin de l'épisode, j'avais un peu touché c'est que le vert dans Urza Saga, sorti en 98, était comme une espèce de remake de l'histoire là, sur la guerre d'Argot dans Antiquities. Donc ce soir, on va se plonger dans le Urza Saga, qui est selon moi un des sets les plus... comment t'as dit ça tantôt? Là, épicé? Non, t'as pas dit épicé, t'as dit...
Je parlais de cannelle.
T'as mis de la cannelle.
Ouais, ça.
En termes de lore, il n'y a aucun set qui a plus de cannelle que Urza Saga. Je pense même que c'est pire que War of the Spark.
Ah ouais.
Puis ça, ça vient, cette idée-là, là, de c'est le début de Magic en comic book. Vous vous rappelez que la semaine passée, j'avais mentionné que Richard Garfield, il disait que c'était impossible de raconter une histoire sur des cartes, si c'est pas...
Ouais.
T'sais, parce qu'on les pogne dans les paquets mélangés. Fait que là, ce qu'a fait l'AS, il avait dit, ben non, c'est comme de l'archéologie, tu sais. Tu reconstruis le casse-tête. Ce qui arrive, c'est qu'en 96, Mark Rosewater se fait engager à Wizard of the Coast. Et juste comme playtester. Et ce gars-là vient de Hollywood. Il écrivait notamment pour le show qui s'appelle Roseanne.
Oh!
Sitcom américain. J'ai mis ici, pour ceux qui l'écoutent sur YouTube, là, j'ai mis la photo de. Ça, c'est Wizard of the Coast en 96.
Mon Dieu, il mesure 2 pouces. Qu'est-ce que c'est ça?
Non, mais ouais, tu gardes, ouais, c'est ça, ils grandissent.
Ah, oh, c'est on a aussi un flashback de comment les gens étaient habillés à l'époque.
Ben oui, hein.
Fait que Mark Rosewater, c'est le plus petit, là, c'est celui qui a le chandail d'Alliance à la photo.
C'est-tu qu'elle a l'air fringant, là?
Ouais. Puis les autres, c'est tous les old schoolers qui ont connu Richard Garfield à l'école ou en jouant au bridge.
Est-ce que ça devait se faire des jokes de Star Trek en Chris, eux autres?
Ah, oh, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais justement, Mark Rosewater, il était un fan de Marvel, les comic books. On ne sait pas encore.
Ouais,
pas, c'est pas l'époque, là. Comment tu dis, Andy?
Ça n'existait pas, le MCU, dans le temps.
Le MCU, ça existait, ça n'avait pas encore contaminé tout. Là.
Ouais. C'était pas la meilleure époque pour être fan de Spider-Man, par contre. Ça.
Oh, allez écouter dans cette époque-là, ouais. Le film de Nick Fury. Je m'en donnerai des nouvelles.
Comment tu dis?
Nick Fury. Le film de Nick Fury de ces époques-là, ou même le film
Nick
de
Fury, c'est voyons, Hoffman.
Oh, oui, exactement.
Face à l'offre,
c'est Nick Fury.
Ouais.
Oh my god. Hey, on divague. On continue. Où c'est que j'en étais là? Ah oui, les comic books. Fait que Mark Rosewater, lui, ce qu'il veut, c'est que les cartes représentent des personnages. Puis t'as une histoire chronologique qui suit. Puis la gang autour de lui, la gang de Wizard of the Coast, ils n'étaient pas intéressés à ça. Eux autres, ce qu'ils disaient, c'est comme l'important, c'est les mécaniques, ces affaires-là. Fait que ce qu'il a fait pour. Avoir son mot à dire, c'est il raconte là, dans le magazine du Duelist qu'il est allé faire du ski avec Richard Garfield. Et c'est pour ça, c'est son article Before the Storm. Il a fait du ski, puis dans le chairlift avec Richard Garfield. On rappelle, Richard Garfield n'avait pas fait de set depuis Arabian Night en 93. Il était plus comme. Il avait cash-in, comme on dit. Là. Il avait pas fait d'autres sets. Fait que. Mark Rosewater, il parle à Richard Garfield, il dit si tu fais un set avec moi, ben comme ils vont dire ok cool, Mark Rosewater va diriger un set, puis comme tu sais, on va faire la formule, tu sais, il convainc Richard Garfield de faire la formule en comic book, puis c'est comme ça que Mark Rosewater va devenir le designer de Tempest notamment. Donc Tempest c'était sorti en 97, puis on se rappelle il utilisait comment il s'appelle, Tommy, le gars qui fait les archétypes, là? C'est George Lucas avait utilisé ça aussi, là.
Hein?
Le gars qui fait les archétypes.
Il a écrit un livre dans les années 50, là. Que
Young, Carl Young.
Non, mais ben, Young, il est inspiré de Carl Young.
Okay.
C'était, en tout cas, il y avait un intellectuel américain, là. C'est Jordan Peterson trip dessus, ben raide, là, puis ça m'écœure à chaque fois.
Mais
c'est aussi celui que George Lucas a appris pour faire Star Wars. C'est-à-dire, ton histoire, il faut qu'elle soit simple.
Ah, le
personnage, c'est des. Hein?
Tu parles du monde qui écrit sur le monomythe, puis toute cette affaire-là.
Ouais, c'est ça. T'sais. Fait que c'est l'histoire d'un héros, t'sais, un début. C'est quoi? Il y a un début, il y a un struggle. Ils sont tous basés sur le même modèle, là, la plupart des films américains. Fait que le Urza saga va être basé. Le Witherlight saga va être basé là-dessus. Ça va être comme la façon dont tu peux expliquer sur tes cartes, c'est d'avoir des gros stéréotypes forts. On passe à Karn. Karn, c'est quoi? C'est la brute fine, t'sais. Le gentle giant. Ça, c'est un archétype. T'as tout le temps le comic relief, ça c'est le gobelin, là, comment il s'appelle, whatever. En tout cas, fait, c'était Weatherlight Saga, c'était Star Trek dans le monde de Magic.
Ouais.
Et là, à un moment donné, l'équipe de marketing, parce que là, Mark Rosewater, ce qu'il voulait faire, c'était qu'à partir de Tempest, toutes les sets, ça suit Gérard sur le bateau volant. Puis le marketing a dit non, on veut faire comme un retour à Antiquities, tu sais, les vieux sets.
OK.
Fait qu'on va faire un prequel au Weatherlight, ça va être le Urza Saga qui va sortir l'année prochaine. Puis là, Mark Rosewater fait comme, OK, comme c'est une bonne idée, cool. Donc, ça va être un set d'artefacts. Tu sais, comme Antiquity, c'est un set d'artefacts. Urza, c'est un artificier. Puis Wizard of the Coast dit non, en fait, c'est qu'on a un set qui a été développé par nos playtesters, que maintenant, il faut qu'on y trouve une identité. Puis c'est un set qui est basé sur les enchantements. Fait que...
J'ai Carol Person?
De quoi ça?
De la personne qui aurait, que tu réfères, là, Carol Person, ou...
Tu parles qui écrit sur les mythes, les archétypes, là? Ouais. Non, ça commence par un J.
Joshua Shen.
Non, mais c'est plus important.
OK.
Mais c'est ça, mon point, c'est que Urza Saga, c'est surtout des enchantements. Les gens, ils pensent que c'est un set qui a rapport avec les artefacts, parce que les artefacts étaient vraiment pétés dans ce set-là. Mais c'est un set d'enchantements. La plupart des cartes dans le set sont... Pas la plupart, là, mais je veux dire, c'est un des sets qui avait le plus d'enchantements avant Théos.
Okay.
Puis, il y avait des designs que je trouvais vraiment cool. Ça, c'était fun quand tu draftais. Parce que c'était des cycles. C'est le premier set qui fait des cycles. C'est-à-dire que tu as la même carte en commune, en uncommon et en rare, mais elle est différente. Je vais prendre l'exemple ici, le Opal Caryatide. Tu payes un blanc, c'est un enchantement, puis elle fait rien du tout. C'est en commune. Si ton adversaire met une créature en jeu, elle devient un 2-2 tout le temps.
Okay.
Fait que dans le fond, c'est comme un Seven Lion de plus dans ton deck de White Winnie.
Ouais, ouais. Puis là, c'est l'enchantement qui devient ça. Fait que c'est pas un token que tu peux... retourner dans la main et qu'il disparaît. Là,
c'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent. Là. C'est l'ancêtre un peu là, de Kamigawa Néo-Dynastie de l'hiver passé. Là.
Ouais.
Parce que regarde, après ça, en non-common, c'est il est deux colorless, un blanc, c'est juste un enchantement. C'est une espèce de statue dans un mur. Si l'autre, tu casses une créature, là, il devient une créature 2-4 Guardian. Puis tu peux payer zéro pour le ramener en enchantement. Fait que si l'autre, tu fais comme un removal dessus, ben, tu peux dodger.
Ouais.
C'est quand même intéressant comme concept. Puis le dans la rare, ben c'est encore mieux. C'est 4 colorless, un blanc. Puis ça donne un Serangel 5-5. Ce qui est fort. Mais je veux dire, comme, ouais, vous voyez un peu le concept qu'il y avait en arrière de ce set-là.
Ouais.
Puis tu avais aussi des enchantements qui grossissent. Puis ça avait tout le temps un thème de chanson comme Vile Requiem, qui ça se passe en Phyrexie. Toutes les cartes noires dans le set Urza Saga se passent en Phyrexie.
On avait commencé là, la semaine passée, là, peut-être qu'on allait en Phyrexie cette semaine, là, parce que là, on ne savait pas. Là, parce que peut-être que Mishra il aurait tombé sur des affaires qu'on a entendues, parce qu'on voyait ses boyaux à un moment donné, c'était assez particulier. Là. Je ne sais plus là, ce qui se passe.
Fait que Vile Requiem, c'est un exemple d'un enchantement qui grossit. C'est à ton upkeep, tu y mets un verse counter, hein, un counter de chant. Puis à un moment donné, quand tu veux, tu le payes 2, tu le sacrifies, puis tu vas détruire X. Target des créatures non noires, X étant le nombre de verse counter. Fait que plus tu gardes longtemps, plus il devient gros. Puis quand il pète, ça arrose toute la table. Tu vois le genre?
Ah, oh, c'est cool.
Puis t'avais le panda parce que toutes les cartes blanches dans Urza Saga se passent sur le plan de Serra.
OK.
OK. Le plan de Serra, c'est. Bon, la Phyrexie, c'est comme l'enfer. Tu sais, je vous disais la semaine passée qu'il voulait créer comme. L'identité propre de Magic qui n'est pas empruntée sur d'autres légendes puis d'autres IP, là. Comme par exemple la mythologie grecque. Là,
ouais.
Ben, c'est Magic qui essaie de créer comme sa propre identité. Là. Fait que l'enfer s'est identifié comme la Phyrexie. Et à l'autre extrême, le paradis, c'est le plan de Serra. Fait que là, c'est la carte, c'est la liturgie de Serra, 2 colorless, 2 blancs. À chaque upkeep, tu mets un verse counter sur Serra liturgie. Et quand t'es tanné, quand t'en as assez, tu payes un blanc, tu sacrifies, ça détruit X artefacts ou enchantements, X étant le nombre de counters qu'il y a sur Serra liturgie. Pourquoi vous pensez que la liturgie de Serra, ça sert à détruire des artefacts?
Ah, ben, c'est des artefacts.
Ah!
Et voilà!
Ah!
Ah, c'est pas pire, hein?
Si.
C'est pas pire, c'est pas pire. Puis c'est aussi là qu'apparaît le fameux symbole Phyrexie, c'est Phi, tu sais, la lettre grecque, là, un rond avec une barre.
Ouais.
Puis ça, comme vous savez, toutes les cartes Infect dans Magic Aster ont tout le temps le Phi en arrière du texte de la carte. Vous avez sûrement déjà vu des cartes qui ont Infect, là.
Ouais, moi j'ai déjà vu ça.
Donc c'est ça. Fait que on passe au suivant. Puis t'avais aussi des auras qui, quand ils allaient dans le graveyard, ils revenaient dans ta main. Fait que ça valait la peine de mettre un aura sur une créature. Parce qu'avant Urza Saga, si tu mettais un enchantement sur une créature, là, la créature, elle meurt, t'as perdu deux cartes. Là, Mark Rosewater, il a réglé ce problème-là. C'est, tu fais des artefacts, des enchantements un peu moins forts. Puis quand la créature meurt, au moins ton enchantement te revient dans la main. Fait que t'as juste perdu une carte.
Ah.
Fait que, tu sais, quand je dis que c'est un set d'enchantement, là, c'est de ça que je parle.
Ouais.
Puis, t'avais aussi dans le. Quand on avait créé. Si vous. Je retourne à mes anciens épisodes sur Tempest. Tu sais, on avait trouvé un gars qui jouait beaucoup à Magic puis qui avait créé son propre set. Je sais pas si t'en rappelles, Tommy. Non? Ça s'appelait. C'était comme deux plans qui rentrent en collision. Là.
Ouais.
C'est pour ça qu'il y avait la mécanique Shadow, notamment. Il y a des mécaniques que ce gars-là avait inventées qu'ils n'avaient pas mis dans Tempest, ils l'ont mis dans Urza Saga. Fait que ça, c'est Echo. Echo permet de faire des cartes plus fortes, mais à moindre coût, mais il faut que tu la repayes une deuxième fois le tour après. Comme le Herald of Serra, deux colorless, deux blancs, Flying, ça tape pas, c'est Vigilance, mais il y a Echo. Faut que tu la repayes à l'upkeep après. Ça, les joueurs ont vraiment haï. C'est pas une mécanique qui est revenue, puis c'est pas surprenant. Là. Mais quand tu l'as sur des créatures aggro, là, t'sais, comme des 1 pour 2-1, des fois, ça vaut la peine.
Ouais.
Mais bon, c'est la mécanique qu'il y avait dans Urza Saga. L'autre, elle venait de Richard Garfield lui-même. Hein, j'avais mentionné, il était dans le chairlift en montant la montagne. Le fameux cycling. Ça, c'est inventé par Richard Garfield. Il avait même eu un peu l'idée de le mettre dans le set de base initialement, mais c'était trop compliqué, fait qu'il finalement, ils ne l'avaient pas mis. Cycling, là, c'est là que ça a fait son apparition. Tu payes 2 colorless, tu jettes la carte qui a Cycling et tu en piges une autre. Fait que, par exemple, si tu es pogné avec les laines qui rentrent en jeu tapé, comme le Drifting Meadow, qui donne un mana blanc, mais il rentre en jeu tapé, tu sais. En début de game, tu veux pas ça, fait que tu le cycles, tant pis, j'ai une autre. Fait que ça, c'est une mécanique qui, à cette heure, est dans plein d'autres sets de Magic.
Là, qui est restée, là, ouais.
C'est resté. Ça, c'en est une qui est restée, contrairement à Echo. Puis moi, je trouve que c'est une de mes mécaniques préférées parce que ça règle un gros problème à Magic, qui est le mana screw. Tu veux du card draw quand t'aimes pas ta main, fait que cycling... Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils le font dans toutes les couleurs.
Ouais.
Ça, c'est ça, Richard Garfield, il insistait là-dessus. Là. Comme ça, tu donnes du card draw à toutes les couleurs.
Ouais.
Tout le monde est égal.
Ouais. Puis, la mécanique qui a brisé le set, qui a fait que c'est pour ça que l'année après que le set est sorti, on parle de combo winter, puis qu'il y a plein de monde qui a arrêté de jouer à Magic. Notamment, c'est le problème de ça. Ça vient de Mark Rosewater. C'est Mark Rosewater qui s'est dit, parce qu'il aimait beaucoup les cantrips, là, tu sais, les spells que tu piges une carte après que tu l'as casté.
Ouais.
Mark Rosewater, il a dit la brillante idée que, hey, à la place de piger une carte quand tu fais ton spell, pourquoi pas on untap les lands, fait que c'est comme si tu l'avais jamais payé.
Okay.
Fait que Time Spiral, hein, qui est la carte vraiment bustée dans Urza Saga, 4 colorless, 2 bleus, donc oui, tu sais, ça coûte 6. Faut que tu arrives au tour 6 avant de pouvoir faire de quoi. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu remove from the game, tu fais un time twister, tout le monde shuffle sa main et son graveyard dans la librairie et pige cette carte. Et tu untap 6 lands. Fait que là, tu peux jouer les 7 cartes que tu viens de piger. C'est vraiment busté.
Oh, oui.
Ça, il y avait des. À l'automne que c'est sorti, là. Parce que ça dominait les tournois, puis ils l'ont banni. Dans le même automne, c'était vraiment.
Ils ont payé toutes les cartes, ils ont toutes déchirées un à suite
de la face du monde. C'est qu'il y avait un Pro Tour, le Pro Tour Rome, là, qui est sorti, je pense que c'est Rome, qui était pendant que Urza Saga est sorti. Puis les deux decks qui ont. Je pense que le top 3, c'est des gens qui ont le même deck, puis c'est basé autour de ça. Là. C'est mono bleu qui untap. C'est avant le palincron, by the way. Hein? Le palincron était basé sur le même modèle, on le rappelle. Ouais. Le palincron, tu untapes toutes tes lames.
Tu fais un high tide, fait que là, tes îles, ils valent 2, fait que tu fais un mana de plus à toutes les fois que tu casses le palincron, puis tu le remets dans ta main, puis tu peux faire une boule de feu infinie.
Peu importe le jeu, aussitôt que si vous désignez un jeu, fais jamais quelque chose qui coûte 0. Ou genre, chaque action dans un jeu doit avoir un coût. Fait que si tu fais comme. Palindron, Time Circle, puis Time Spiral ou Time Break.
Top Terre.
Non.
Ça, déjà, il y a un coût, là. Faut que ça soit une carte, là, mais je suis d'accord que 0, c'est le plus gros problème.
Non, la seule contrainte, c'est faut que tu arrives à ton mana, mais c'est facile ramper. Fait que. Puis d'ailleurs, le deck que tu parles, il s'appelait le deck High Tide, puis c'est ceux que je parlais justement, mais il n'y avait pas encore le palindron, mais c'était déjà busté dans le même sens. Puis c'est pour ça que ça s'est tellement répandu qu'à l'époque, tout le monde s'est mis à vouloir jouer ça. Puis c'est à ça là. C'est pour ça que Tommy est toujours pisse 20 ans plus tard. Ça y a scrappé beaucoup de soirées de Kitchen Magic.
C'est les hosties de palingrons puis les calices d'elfes dans le sacrement de sauna. Si je veux rien savoir, next!
Next! Fait que, ils ont donné aux artistes, tu sais, là, j'ai parlé des mécaniques dans le Urza Saga, mais après ça, on va aller dans le storyline en tant que tel. Fait qu'ils ont dit, tu sais, j'avais mentionné la semaine passée, c'était le vert, c'était la guerre des deux frères sur Argot. Mais chaque couleur, comme j'ai mentionné, est comme stick sur un plan différent. C'est là qu'on commence à avoir des vrais Planeswalkers. Puis, ben, c'est Urza. Je l'avais mentionné, tu sais, l'explosion sur Dominaria quand il a pété le Silex, ça l'a starté son Spark et il devient un Planeswalker. Et le set de Urza, c'est la vie de Urza sur plusieurs siècles en tant que Planeswalker.
Ouais, parce qu'il est immortel, là, ils sont tous rendus immortels ouais. Dans ce temps-là. Là.
Exactement. Ouais. Puis, comme tu vois, sur, j'ai mis l'image, il est capable de changer de face et de se rajeunir ou se vieillir comme il veut. Là. Ça, y a pas de l'aspect corporel a plus d'importance parce que tu summones des affaires pour te changer. T'sais. Fait que les cartes vertes, c'est la guerre entre les deux frères. Les cartes noires, c'est ça se passe en Phyrexie ou dans le plan de Serra. Les cartes blanches se passent seulement sur le plan de Serra. Les cartes bleues, c'est l'île Tolarienne. Ça, c'est quand il crée son école de magicien. On est avant Harry Potter, là. Puis, à la fin, les cartes rouges, c'est quand il se construit le Weatherlight dans les forges de l'île de Shiv. Qu'est-ce qu'il y a dans l'île de Shiv, Tommy?
Il y a les Shivan dragons, sûrement.
Et voilà. Fait que c'est ça. Tu sais, on est dans le gros nostalgie le déjà, ouais, là. C'est déjà, ça carbure à la nostalgie des premiers joueurs de Magic. Là.
On explique tout.
T'sais. On explique tout. Ouais. Fait que c'est ça, j'avais mentionné la semaine passée, dans le fond, c'est le gros choc que Urza a eu, c'était que les Phyrexiens avaient infiltré le camp de son frère, ils l'avaient corrompu, ils l'avaient changé en robot. Puis là, il s'est rendu compte qu'il allait pas pouvoir gagner la guerre contre Mishra et réunir les deux pierres. Fait que pendant le fight final, il a déclenché le Golgothian Silex. Ça l'a fait le Urza Ruinous Blast, qui a, dans le fond, ça détruit Dominaria et ça amène le Ice Age.
De toute cause!
Puis, cette explosion-là, ça l'a fait en sorte. On se rappelle, Tommy, le Weak Stone et le Might Stone?
Oui.
C'est liette.
Oui. Puis, by the way, le Weak Stone, là, c'est pas le chien qui le dessine.
Non, c'est l'affaire qui est dans le cou.
C'est l'affaire qui est dans le cou.
Ah, oh, oui.
Puis, ouais, c'est les premiers hearts de Magic, c'était pas tout le temps réussi. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que l'explosion a réuni ces deux pierres-là. Et ça, Urza l'a intégré dans le corps. Fait que comme Urza est maintenant investi du Weak Stone et Might Stone réunis. Fait que c'est comme un genre de Planeswalker boosté.
Ça a-tu un nom, ça, quand ils sont réunis ou ils n'ont pas inventé
oui. Le nom? Ah. Ça va être connu plus tard comme étant le Urza Legacy.
Ah, OK.
Le Urza Legacy, c'est les artefacts que Gérard doit réunir pour vaincre Yagmoth, le chef des Phyrexiens. Fait que c'est le gros MacGuffin qui va suivre sur 9-7.
Ah ouais, hein?
Parce que Tempest, il commence à ramasser les morceaux du Legacy. Urza Saga t'explique comment ça a été construit, ces affaires-là. Puis juste rapidement, pour ceux qui se demandent, là, t'as notamment le Weak Stone, le Might Stone, il y a le vaisseau Weatherlight, le golem Karn. Puis tu sais, pourrait continuer, là. On va les découvrir ce soir, en fait.
Fait que Rosewater a inventé le MCU avant le MCU, finalement.
Ça pourrait être une théorie qui est intéressante.
Mais comme tu as dit, c'est basé sur les bandes. Non, mais comme tu as dit, il trippe ses bandes dessinées, puis ça fait longtemps qu'ils font ça, les bandes dessinées.
Ben, je veux dire, tu le vois là, en ce moment. Là. Ouais, ça transperce le set, là. On est dans du comic book, là.
Juste pour vous contredire. Ayant lu les bandes dessinées de l'époque de Magic the Gathering, j'avais tendance que c'était une preuve dans le camp de Richard Garfield qu'il n'y avait pas moyen de faire une histoire avec ça.
Oui, mais dans le temps, c'était nono.
Non. Je suis pas d'accord avec toi, Jonathan.
All right.
Les comic books sont exécrables. Je l'ai mentionné souvent. Mais ça, c'est le problème de tout créateur. Le sait, Tommy travaille pour créer des jeux vidéo. Quand ta compagnie externalise à un tiers la production du produit, ça va pas tout le temps fitter avec la vision que tu avais de lui. Fait que les comic books de l'époque sont pas faits par ceux qui font l'histoire sur les cartes.
Exact. C'est ça.
C'est ça le problème.
Ouais.
Puis c'est encore ça le problème aujourd'hui. Les fois que les histoires de Magic ont été bonnes, c'était quand qui était faite par ceux qui faisaient les cartes. C'est pour ça que Khan of Tarkir, c'est cool. C'est pour ça que Kamigawa Neo Dynasty, c'est comme quand même cool, mais que le Eldraine était comme so-so, tu sais, dans son histoire. Fait que tu sais, ça varie, c'est selon qui fait l'histoire. Mais bon, moi je trouve que ça fait très comic book quand on tombe dans. Vous allez voir, là, les quatre se suivent. Vous pouvez les voir, là, ils sont sur dans les commentaires de. Pas dans les commentaires, dans la description de l'épisode, il y a le lien pour voir les cartes d'Urza Saga. Quand il y a eu l'explosion, Thanos, on s'appelle Thanos?
Thanos. Parce qu'il y a un S à côté.
On s'appelle, c'est l'apprenti de Urza.
Oui.
Il s'est réfugié dans son artefact ultime qui était le Thanos Coffin. J'en ai pas parlé la semaine passée parce que ce qui est important, c'est après l'explosion. Le Thanos Coffin, ça coûte 4 colorless. Puis ce que tu fais, c'est que tu payes 3, tu choisis une créature et tu la rends exil tant que ton Thanos Coffin reste tapé. Ça inclut les créatures de l'adversaire, by the way. C'est une façon d'enlever des créatures. C'est l'ancêtre là, de les sphères.
C'est ça. Les prisons.
La Machine Light. Oui, c'est ça. C'est un des premières prisons.
Ah, mais check le nombre de mots pour expliquer.
Oui, oui, c'est ça. C'est un wall of text. Tu sais, c'est... Tu vois, if coffin is untapped or removed, creature return to play tapped. You may choose not to untap. Tu sais, il y a comme. C'est un long texte d'avocat, là, ça n'a pas de sens.
Un jour, il serait écrit phases out until it untapped. Ben,
ça fait exactement la même affaire. Ça fait la même affaire que la limousine, presque. Sauf que.
Oui, oui, la limousine dans
dans le dernier,
ça a l'air de plus phaser out. Dans le temps, les affaires phasaient plus out que.
Oui, oui, oui. C'est
out, tu gardes tes équipements.
Ta créature, elle garde toutes ses boosts avec ça. Ça, c'est bon aussi pour quand tu joues des affaires un peu comme Boggle, là, tu sais, des decks où tu mets plein d'aura sur ta créature. Thanos Coffin te permet d'avoir tout le temps. Parce que tu payes 3, tu le tapes, puis là, ça sauve ta créature. Puis quand tu l'untapes à ton tour d'après, la créature revient, ben, elle a tout dessus. Ouais. Fait que Thanos, ce qu'il fait, c'est quand il voit que ça va péter, il rentre dans son propre coffin. Fait qu'il s'enferme, puis c'est le seul survivant. Thanos est le seul survivant de la guerre des deux frères là, sur l'île d'Argot. C'est lui, en fait, qui va ramener aux gens de Dominaria. Il va écrire ce qui s'est passé. Fait que cette information-là va se maintenir pendant le Ice Age, mais ça va quand même faire en sorte que les gens sur Dominaria vont haïr les magiciens parce qu'ils considèrent que c'est à cause de juste deux joueurs de Magic que tout est détruit.
Tout cassé,
mais c'est un peu à cause que Thanos a survécu à ça. Mais bon, cet artefact-là donne une idée à Urza. Il se dit « Hey, mon apprenti, il avait une méchante bonne idée. » Fait que maintenant que Urza est un Planeswalker, il construit son armure. Fait que ça coûte 6 colorless. À chaque fois qu'une source de dégâts te fait du dégât à toi, ça réduit le dégât de 1. C'est pas grand-chose, mais attends un peu, là. On commence. Lis-nous le flavor text, Tim.
Thanos' blueprints were critical to the creation of my armor. As he once sealed himself in steel, I sealed myself in a walking crypt.
Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'il a pris les designs de Thanos, il a créé son armure. Fait que c'est pour ça que sur toutes les cartes noires, vous allez voir, à mesure qu'on passe à travers les cartes, Urza est tout le temps habillé pareil. Ça, c'est nouveau dans Magic. Parce qu'avant ça, t'avais plusieurs personnages sur différentes cartes, ils se ressemblaient pas. Fait que là, ils disent, quand tu dessines Urza, faut qu'il y ait l'air de ça. Fait que peu importe c'est qui l'artiste. Fait que là, t'as cette armure-là qui va être présente tout le long de l'histoire, puis c'est quand même cool. Urza, ce qui prend la décision, c'est, tu sais, la Phyrexie est le danger du multivers. C'est le vilain identifié à la fin de la guerre des deux frères. Fait que je suis maintenant une espèce de planeswalker surpuissant. Je dois stopper les Phyrexiens. Fait qu'il entreprend de lui-même de rentrer en Phyrexie, de trouver Yagmoth, puis de le finir là. Urza a aucune idée c'est quoi la Phyrexie parce que il y avait juste une vague idée à travers son expérience de la guerre des deux frères. Puis, quand ils ont fait le set, ils avaient déjà déterminé, dans le fond, comment la Phyrexie est faite. Puis, j'avais mentionné au début, l'un c'est l'enfer, l'autre c'est le paradis. Ben, on est dans un rip-off de Dante. Dante Inferno. Ouais.
1, 2, 3.
C'est exactement 9, ça. 6,
7, 8, 9.
La Phyrexie, c'est une machine faite de 9 sphères.
Voilà.
C'est entièrement artificiel. C'est un genre de gigantesque artefact gros comme une planète. de la junk accumulée. C'est des machines prises sur différents autres plans, pas juste Dominaria, mais tous les plans qu'ils sont capables d'atteindre. Ils volent les artefacts que les gens font sur ces plans-là, ils les ramènent en Phyrexie. Et ils font des tests pour, dans le but de tout le temps s'échanger des morceaux. C'est quoi le but, selon vous, ultime de ça? C'est de...
Ben, créer l'être suprême, le dieu de la Phyrexie.
Ouais, mais tu te rappelles-tu c'est quoi le nom? Je t'ai entendu le dire, Andy, quand t'as fait le Lord Kamigawa. Ouais.
Ah, c'est
le complete.
Le complete. Ouais, le complete, ça. Ouais.
Fait que la Phyrexie, c'est comme une grosse usine qui vise à faire la machine parfaite. Puis, fait que là, tu sais, Urza se rend compte que c'est un burger qui est gros à avaler. Là, parce qu'il y a du power qui vient de partout. Vas-y, Andy.
Ce qu'on voit là en ce moment, les 9 étages, ça, là, c'est encore, c'est canon encore aujourd'hui. Là, c'est.
C'est. Il y a une raison pourquoi ça s'appelle New Phyrexia.
Ah, voilà. OK, c'est bon.
Ils ont déménagé. Ça, c'est l'ancien appart.
OK.
OK. C'est ça, bon. C'est le Phyrexia old school.
Je comprends.
Qui, si tu te rappelles, j'avais mentionné, il est juste une couleur, c'est le noir.
Ouais.
Fait que le premier étage de la Phyrexie, c'est comme une imitation de la nature. C'est la Phyrexie essaye d'imiter le verre.
Ouais. OK.
Puis elle échoue lamentablement. Fait que tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est des swamps. Avec des arbres morts ou en métal qui rouillent. Tout est des machines, là. Il n'y a rien d'organique qui existe en Phyrexie.
C'est de l'huile.
À part des affaires mortes, tu sais, comme des os, de la chair. Mais tu sais, il n'y a pas de bibitte là, en vie là-dedans. Puis, c'est ça, tu l'as mentionné, c'est de l'huile. C'est pour ça que dans Urza Saga, la carte Rain of Filth, ben, y a un noir, un instant, chaque laine que tu contrôles, tu peux le sacrifier pour faire un mana noir until enough turn. Autrement dit, toutes tes laines peuvent se sacrifier pour faire mana noir. Ça c'est Tom of, ceux qui jouent le Magic Modern, Tom of Yagmoth, c'est exactement, ça donne du mana noir à toutes tes laines.
C'est vrai.
Il est perfectionné. T'as pas besoin de le sacrifier pour qu'il fasse du mana noir. Mais là, on est encore à leur début. Cet effet-là est sous la forme d'instant. Puis lis-nous le flavor text, Tommy.
When I say it rained, it was not small drops, but a thick greasy pool pouring from the heavens. Il tombe de la marde du ciel, style.
Fait que c'est très hostile à la vie. C'est pour ça que dans, tu sais, j'ai dit c'est un set d'enchantment. Fait que c'est clair que dans le noir ils ont mis pestilence qui vient du site original. Ouais. Puis là ils se disent faut qu'on trouve une façon que ça fit. Fait que là ça fitait, c'est sur la Phyrexie, il n'y a rien qui vit, c'est tout le temps comme la peste, la maladie. Fait que deux colorless, deux noirs, à la fin de ton tour, s'il n'y a pas de créatures qui sont en vie, tu sacrifies ton pestilence. Mais sinon, tu payes un noir, ça fait un dégât à toutes les créatures et tous les joueurs. Ça, cette carte-là, c'est vraiment fort. Puis moi, personnellement, j'ai jamais drafté Urza Saga, mais j'ai écouté des podcasts qui en parlent. Puis il paraît que, parce qu'on voit que c'est une commune.
Oui. Ouais.
Fait que dans les Pro Tours, les pros avaient compris que quand tu drafts Urza Saga, ton go, c'est Pestilence.
Ah oh ouais.
Du Ramp, Pestilence, pour faire du Mana Noir, Rain of Filth qu'on a vu tantôt. Fait que si tu pognais un ou deux Pestilence, c'était comme impossible, très très difficile de perdre. Ouais. Fait que c'est comme la stratégie bustée de Urza Saga. Puis il paraît que vers la fin de l'automne 98, les drafts dans les magasins, c'était gossant parce que c'était comme une guerre à qui c'est qui va pogner Pestilence. Puis ça diluait beaucoup là, le fun de drafter le set parce que il est résolu. Là, c'est pas cool.
Si tu pouvais mettre Urza's Armor, la personne faisait juste dire « OK, je scoop » puis qu'on passe à une autre chose.
C'est vrai, hein, parce que là, tu te sauves là, un dommage.
Ouais. Ah oh oui, ça va ensemble.
Non, je m'en souviens de l'avoir fait souvent. C'est pour ça
que tu l'avais déjà fait?
Oh oui,
joues Urza Armor, toi?
Ben, dans le temps que j'avais 16 ans.
Ben, c'est cool. Avoue que c'est une cool carte, hein?
Ah, c'est
très plus, comic book.
Moi, j'ai vraiment des vibes de Warhammer 40 000 qui m'attiraient aussi.
Ah oui, ça va ensemble. T'sais, tu te rappelles, la semaine passée, j'ai mentionné celui qui avait fait Antiquity, c'était des joueurs de Warhammer.
Mais l'illustrateur a principalement fait du fantasy. Je vais arrêter là, sinon on va partir. Mais
vas-y, c'est assez très sert, terrain basique. Non, vas-y.
Ben, comme Eric Post, littéralement, ouais. Comme c'est fait Il a travaillé principalement pour TSR, Dungeon and Dragon, par la suite. Je ne me souviens plus exactement tout son répertoire. Mais ce qui est le fun, c'est que je pense, surtout à ces époques-là, il y a eu plusieurs artistes qui se sont greffés, qui, on va dire, tu disais, il y a eu un upgrade.
Ouais.
Dans les artistes, je pense justement à Phil Foglio, que de mémoire, n'était pas dans les premiers sets, qui est quelqu'un qui était un artiste indépendant à l'époque, qui est encore actif dans Magic cette année. Ça, il va sortir une carte encore.
Cool. C'est clair que ça doit être un des plus grosses usines d'utilisation
d'artistes
visuels.
C'est si tu peux. Moi je suis abonné à beaucoup de leur Patreon, puis comment ça s'appelle là? La place où ils postent leur art, là, DeviantArt.
DeviantArt aussi.
DeviantArt, là, je vois les wannabes, là.
Ouais.
Puis c'est le fun de s'abonner à leur page parce que là, ils font des. Tu sais, j'ai présenté ça à Wizard of the Coast, ça a été rejeté. T'envoies, là. Puis c'est quand même cool parce que tu vois un peu dans quelle direction Magic aurait pu prendre. Puis des fois, t'en as qui se font engager.
C'est cool.
Puis il y a eu beaucoup de nouveaux artistes dernièrement. Là. En tout cas, on continue notre voyage dans Slush. Et les choses organiques, les zombies de la Phyrexie, c'est vraiment un amoncellement d'os et de machines qui tient toutes ces affaires-là ensemble. Puis c'est pour ça que les créatures ont beaucoup d'aspects sacrifice. Puis t'as une grosse dimension dans le draft de Urza Saga de mécanique qui trigger. Là. Fait que tu sais, Phyrexian Ghoul, deux colorless, un noir pour un 2-2, tu sacrifies une créature, il gagne +2/+2 until end of turn. Tu sais, mais toi, t'en sacrifies deux, il gagne +4/+4. C'est quand même fort. T'sais, en commune, là, ça vaut la peine. Puis ça dit, tu sais, Phyrexian waste nothing. The food chain is a spiraling cycle. Petite référence à cycling ici, peut-être.
Mm-hmm.
T'avais des affaires.
C'était plus un clin d'œil sur le fait que la food chain, c'est comme une pyramide, mais là, c'est comme un cercle.
C'est les 9 sphères. Puis, t'as des affaires comme le Flesh Reaver, qui est un horreur. Ça, c'est l'époque où Wizard of the Coast avait arrêté d'écrire Demon.
Ah oui, ah oui.
Fait que ça serait censé être un démon, mais il pouvait plus à cause que les Christians les avaient poursuivis en justice. Fait que.
Est-ce qu'ils ont bien fait des affaires, ça?
Fait que le Flesh Reaver est une horreur au lieu d'un démon. Fait que c'est quand un Flesh Reaver, c'est un 4-4 pour 2. À chaque fois qu'il fait du dégât à un adversaire, il fait aussi du dégât à toi. Fait que tu sais. On appelle ça Black Suicide. Là. Tu perds de la vie, mais tu l'as casté tôt, puis ton but, c'est qu'il va perdre plus de vie que toi, t'en perds. Ça, c'est intéressant à jouer, cette carte-là, dans du mono aggro. Là. C'est quand même cool. Ça l'a vu du tournament. Urza Saga avait des Legendary Land. On a vu Gaea's Cradle là, qui fait taper les elfes pour faire chier Tommy.
Non, merci. Ton sauna d'elfes. Non, merci.
Fait que Urza, il perce à travers la première sphère, les cartes que je vous ai montrées, et il arrive dans la deuxième sphère, qui sont les cheminées et les tours. Ça, dans le fond, c'est d'où la production interne, une fois qu'elle est finie, elle se déploie. Puis les Phyrexian Towers, c'est un Legendary Land qui fait du mana colorless, où tu sacrifies une créature, puis tu fais deux mana noirs.
Crément.
Là, on a le truc avancé de la pluie d'huile de tantôt qui faisait juste un, si on se rappelle. Sacrifier un land. Là, si tu sacrifies une créature, ça te fait deux noirs. On a encore le recycling. Puis ça te dit Living Metal Encasing Dying Flesh. Puis c'est encore plus hostile à la vie parce que tu as le Smokestack, 4 colorless, un artefact. À ton upkeep, tu mets un counter de suie sur ton Smokestack, fait de la fumée. Et à chaque upkeep de chaque joueur, tout le monde doit. Le joueur en question, que c'est son upkeep, doit sacrifier un permanent pour chaque token de suie que tu as mis sur ton smokestack.
Qu'est-ce que ça tue un jeu, hein? tu peux vraiment rendre à zéro le jeu en faisant ça.
Ouais. Ça, c'est de là que vient le terme, l'archétype de deck qui s'appelle le stack. Le stacks. C'est dans les premiers, là, au début des années 2000, jouaient Smokestack. Fait que tu vas jouer ça avec du discard, des affaires qui jouent du graveyard. T'as quasiment jamais de laine en jeu, là, parce que c'est ça que t'as envoyé dans le Smokestack, parce que tu veux garder tes autres permanents.
Ouais.
C'est pour ça que c'est une carte qui vaut cher à cette heure-là, puis c'est très, très compétitif, mais comme tu dis, Andy, ça fait pas des games le fun, surtout en multiplayer.
Ben non, parce que ça ramène à zéro tout le monde. Fait que là, tout le monde est comme jammé. Puis là, étant donné que ça rajoute des sous-counters, à chaque tour, ça devient pire.
Fait que là, tu peux pas l'arrêter à moins que tu le détruis.
Imagine. Exactement. Fait que là, si personne ne peut l'arrêter, ben, t'es rendu au 12-10 où est-ce que tout le monde doit sacrifier chacun 10 permanents.
Sauf c'est que comme... sa soupape de sûreté, c'est que.
Ah ouais, c'est que. Il va falloir que tu sacrifies lui-même. Ben mais, oui. Ben oui.
Mais quand même, fallait pour qu'il soit payant, c'est que tu veux le garder là longtemps. Tu
comprends?
Ouais, ouais. Je trouve qu'il y a une belle balance de jeu. C'est vraiment le fun à jouer, mais c'est pas le fun à subir.
Je comprends.
Fait que ça, c'est le deuxième niveau de la Phyrexie, puis c'est là qu'ils voient là, tu sais, le reprocesseur, là, tu sacrifies un nombre de créatures et d'artefacts, les lands, puis tu piges pour chacune. Puis là, tu sais, on voit là, tous les artworks qui ont tout le temps les mêmes tours, les mêmes cheminées. Moi, ce que j'aime, c'est que les cartes s'appellent entre eux autres. Tu sais, le artwork, il reste tout le temps pareil.
Ouais, c'est vrai. Les ciels aussi, là, on dirait que c'est des plafonds weird.
Le ciel, c'est un plafond avec des tuyaux. Puis tu vois les créatures aussi, là, on se rappelle le Phyrexian Ghoul, sa bouche. C'est les mêmes qu'on voit qui tournent autour du reprocessor. Puis remarquez ceux qui sont des espèces d'autruches. Retenez-les, eux autres, on va les voir tantôt. Fait que c'est ça, tu sais, je pourrais comme y aller. Je vais un peu avancer dans mon histoire, là, fait qu'on va skipper, mais t'as plusieurs créatures là qui sont toutes comme différentes. Puis tu sais que c'est quand même nice le heart qu'ils ont fait. Puis tu sais, ils ont ramené le Dark Ritual parce qu'on n'a pas encore compris que c'est trop fort. Puis là, le Dark Ritual, il a starté une mode, c'est les Phyrexian Scriptures, les écritures phyrexiens. Lis-moi ça, Tommy.
From Void Evolved Phyrexia. Great Yawgmoth, father of machines, saw its perfection. Thus, the grand evolution began. Phyrexian scriptures.
Donc ça, c'est cool. Il explique le lore de la Phyrexie à travers ça. Ah, puis, ouais. C'est quoi qu'ils veulent faire? T'sais, c'est transformer d'autres affaires en quelque chose de mieux. Fait que je t'invite, Tommy, de caler la carte de la semaine.
Hey, on est rendu à la carte de la semaine. C'est une présentation de l'adversaire 4303. Sainte-Catherine-Est. On va écouter un petit beat à bonde pour aller vers ça. Beat à bonde. Et toute une ambiance. Encore un dessin de Rod Spencer, c'est un des moins bons, je trouve.
C'est le pire. On parlait des hearts tantôt, là, moi non plus. Il est pénible.
Ouais.
Puis les couleurs sont laides.
Ouais. Tout le monde a l'air malade. Ron, c'est pas que t'es pas bon, c'est que j'aime pas ça ce que tu fais.
Mais j'aime cette carte. La carte de la semaine. Tu sais, j'ai mentionné comment le recyclage de la Phyrexie. Ben, y a rien de plus recyclage que ta propre vie hein, en tant que joueur de Magic. Phyrexian Processor, 4 colorless, un artefact rare. Quand il rentre en jeu, ton processor, tu choisis un nombre de vies. Tu peux mettre 1, tu peux mettre 19.
OK.
Vous me suivez à date?
Ah ouais, ouais, ouais.
Après ça, tu peux payer 4 colorless, tu tapes ton processeur pour créer un minion noir, un token, qui a un power toughness égal au nombre de vies que tu as choisi quand tu as mis ton processeur en jeu.
Ah, veux-tu des 10-10, c'est un tabarnak, 10-10.
Au quatrième tour, non, au cinquième tour, genre.
Ou au cinquième tour, ou si tu es capable de, mettons que tu joues... Ah,
c'est vrai, c'est un artefact, tu peux taper ça tout de suite, il n'y a pas de summoning sickness d'artefact.
Et voilà. Ça, là, c'était tellement busté, ce que je vais vous présenter ce soir. Je vais faire juste un petit retour rapide. Le World Championship de l'année 2000, il y avait deux gars, John Finkel puis Bob Maher, ils étaient dans la même équipe. Ils ont fait le même deck, basé autour de Phyrexian Processor. Puis ils se sont dit, ça c'est le meilleur deck. C'est le format standard. C'était l'année que Urza Saga s'en allait de la rotation. Et sont arrivés tous les deux, ils ont passé à travers comme, tu sais, c'est genre 13 rounds, je pense, des meilleurs joueurs de la planète. Là. Puis ils sont arrivés tous les deux.
Un contre l'autre. Hein?
Un contre l'autre, en finale, avec le même deck. C'est fou quand tu penses. Le même deck. Pareil, les 75 cartes. Pareil. Okay. Puis c'était tout basé autour du Phyrexian Processor. Ils jouaient les lands qui fait deux mana colorless, là, comme le Crystal Vein ou le Chaprazan Scary. Le but, c'est de ramper. Là. Tu dis, Andy, tu dis au quatrième tour, là, non, tu vas plus vite que ça. Là, ils castaient Grim Monolith que tu peux taper pour avoir trois mana colorless. Puis tu avais assez de land pour mettre ton Tran Dynamo que tu tapais pour avoir trois colorless. Et un Voltaic.
Là, t'es rendu à 4, là, fait comment?
Juste pour renchérir ce que tu disais quand ils ont le même deck dans un tournoi de Magic, je me souviens plus combien de joueurs qu'il y avait à l'époque, mais juste pour donner une idée, à cette heure, dans les tournois, tout le monde net deck. On a tous des outils web, on a tous des apps pour s'aider à faire des recherches de bases de données en grep et tout. À l'époque, ça fonctionnait sur un 56K si ta maman payait la facture Internet. Fait que c'est vraiment c'est à l'éloge du deck que sans outils de recherche, avec un possiblement des babioles électroniques.
Il était dans la même équipe, par exemple. Fait que
probablement, ils se connaissaient, là, ça
non, mais c'est pour ça que j'ai dit tantôt qu'ils faisaient des équipes. Les gens faisaient des équipes, puis souvent, tu avais un ou deux qui avaient Internet, puis ils se communiquaient entre
eux. Oui, mais même à ça, les bases de données n'étaient pas là. Puis...
Non, c'est rien comme aujourd'hui. Ah, c'est sûr, aujourd'hui, tu peux avoir en décimal comment tant que tu es capable de caster ton chat du chaudron au bon moment. Il te le calcule en décimal, ça n'a rien à voir.
Là. C'est pour ça. Là,
ça n'a rien à voir. Mais bon, le but, c'était le deck, c'est que là tu faisais Tinker, qui est une carte de Urza Saga, tu sacrifies un artefact, tu vas chercher une librairie, dans ta librairie, un artefact que tu mets en jeu.
Ben oui,
fait que souvent, là, tour 2, tu avais ton Phyrexian Processor, tu sais, boum, tu attaques de 19, l'autre est fini. En moyenne, il arrêtait souvent à 7 ou 8. Parce qu'il préférait après ça garder contrôle sur le jeu, puis 2-3 tours pour le tuer, mais tu protèges ton processeur.
Ben, tu veux pas mettre 19 parce que l'autre, il y a une Lightning Bolt à la Nono Honesty.
Ben, c'est ça. T'sais. Mais t'sais, il faisait. C'est qu'avec la clé là, qui tape un artefact, ben, tu pouvais faire ton Phyrexian Processor deux fois dans le même tour. Là. C'était fort. Là. C'était vraiment fort. Mais aujourd'hui, tu peux aussi jouer. Tu mets, mettons, un Grave Pack. Grave Pack, ça coûte 4 noirs. Chaque fois qu'il y a une créature qui s'en va au graveyard, tous les autres joueurs doivent sacrifier une créature. Fait qu'à chaque tour, tu actives ton processeur, mais tu as mis 0 vie dedans. Fait que la créature, elle meurt tout de suite. Ou si tu as mis beaucoup de vie, ben là, tu joues avec un Angelic Chorus qui vient du plan de Serra. Chaque fois qu'une créature rentre en jeu, sous ton contrôle, tu gagnes sa vie en toughness.
Oh, game-toi, puis c'est encore Ron Spencer.
il était vraiment populaire à l'époque.
C'est vrai que c'est pas super beau hein, comme dessin.
Ben c'est Ron Spencer, c'est l'artiste. Je pense que c'est l'artiste que Terrain Basique officiellement n'aime le moins. Parce que comme tout le monde, à chaque fois que Tommy dit que Tom Spencer est pas cool, les gens ont tendance à faire comme ouais.
Il y a deux trois dessins que j'aime bien, comme Terror. Le Terror, une des premières cartes noires, l'original, le petit bonhomme mauve terrifié dans le coin de la carte.
Ouais.
Personnellement, c'est quelque
chose. C'est ça qui l'a fait connaître. Ouais, c'est vrai que c'est un bon, ça.
C'est un bon. Puis, à l'opposé, c'est aussi lui qui, je pense, qui a fait la petite louve avec un chocolat chaud dans le premier onset. Genre.
Ok, non, là, tu me perds.
Ah, oh, c'est
pas important. Reviens-nous, on va continuer.
Bon, c'est ça. Peut-être que tu joues en Umbilicus. À chaque upkeep, tu payes 2 de vie, sinon tu ramènes un permanent dans ta main. Fait que là, tu ramènes ton processeur, tu la remets que tu as changé la vie que tu voulais dessus. Tu sais, t'as plein de petits combos cool à faire. Ou la mécanique Populate des Celestiens dans Ravnica Allégiance. T'as plusieurs cartes là, qui te permettent là, de faire, tu sais, comme par exemple le Growing Rank, à chaque upkeep, tu populates, fait que tu crées une copie d'une carte que tu as déjà. Fait que ton 19-19, là, il peut en faire beaucoup grâce à Populate.
C'est vrai. Tout ce que t'as dit, ça se tenait, Jason, et ça termine la carte de la semaine, quelque chose qui fait très phyrexien. Merci, on va aller réécouter une petite tranche de Betabonde puis retourner deep dans Phyrexien. On venait d'arriver au deuxième étage. C'est cool, celle-là, la Witch Engine.
La Witch Engine, je vous avais parlé, les espèces de monstres en autruche, là. 5 colorless, un noir, Swamp Walk. Tu peux ajouter, le taper pour faire 4 mana noirs et ton adversaire gagne le contrôle de Witch Engine.
Quand même.
Un peu comme ton Humble Defector, Jonathan. Mais ça, c'est son ancêtre. Fait que Urza, il fouille le deuxième secteur de la Phyrexie. C'est cool, ils ont mis des cartes où ce que Urza summon qui se fait péter par les Phyrexiens. Comme le Pit Trap, qui coûte 2 colorless, tu sacrifies pour détruire une créature qui n'est pas flying. Ben, c'est un twig des pics, là. Ben, la créature qui est morte dedans, c'est un Yoshian Soldier que Urza a.
Ben ouais, le mot, il est tout pété, man.
Ça, c'est très comic book aussi, là. Je trouve ça. Mm. Là, tu sais, dans le roman, il mentionne qu'il summon un Dragon Engine. Tu sais, il y a plein de références là, sur des vieilles cartes d'Antiquities. Là, à un moment donné, il voit le Phyrexian Colossus. Ça, c'est Tommy, tu jouais ça en Reanimator, là, le 8-8 pour 7, mais je crois qu'il faut que tu payes 8 vies pour l'untaper.
Ouais, c'est rough, ça.
C'est vraiment rough. Fait que là, c'est ça, il est pas capable de combattre ça. Fait que là, il rentre dans la troisième sphère. La troisième sphère, c'est des tuyaux. Fait qu'il y a plusieurs cartes où tu vois des tuyaux entremêlés, c'est la troisième sphère. Et éventuellement, quand il arrive dans la quatrième, là, où tu es un peu plus comme dans le haut commandement phyrexien, là tu as le Wall of Junk, un gros mur de marbre rouillé qui se dresse devant lui. Urza saw the wall and realized that even if he tore every phyrexian to peace, they will still resist him. Fait que comme son espèce de quest va vraiment mal à Urza. Et,
ben oui, hein?
Il est comme les cartes représentent ça. Là. C'est les affaires qui summonent se font péter. Là, il y a un mur de déchets rouillés qui se dresse devant lui.
Il avait sous-estimé la phyrexie.
Ben, il comprenait pas c'était quoi, tu sais. Puis il se rend compte à quel point c'est un danger pour le multivers parce que c'est vraiment puissant. T'sais, ça amène des machines de partout. Mmh. C'est la volonté de Yagmoth. Hein. Une autre carte vraiment trop bustée de Urza Saga. Ça, c'est souvent classé comme une des top 3 cartes noires dans Magic. Deux colorless, un noir. Jusqu'à la fin de ton tour, tu peux jouer toutes les cartes de ton graveyard comme s'ils étaient dans ta main.
Holy shit.
Puis là, tu les removes from the game instead. Mm. Ça, quand c'est sorti, les decks de Nécropotence, entre autres, étaient comme rendus encore plus forts qu'avant. Ça l'a vraiment busté là, à sa sortie et ça l'a été banni. C'est une des cartes problématiques du fameux combo Winter de 99.
Mais comment que Magic a fait pour survivre à Urza Saga?
Ben, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais pu faire de set aussi fort que Urza okay. Saga avant Throne of Eldraine.
Ouais, ouais.
Quand tu compares les mathématiques, là, ça, le combo Winter, moi, j'ai arrêté de jouer à Magic à ce moment-là. Là. C'était juste trop busté. Mais bon, Là, tu sais, ça va vraiment mal pour Urza. Il est en train de perdre. Au même moment, où j'imagine que ça s'est passé quelques années avant, c'est que les Phyrexiens sont capables d'assembler de créer de la fausse vie. Ils créent ce qui s'appelle des Sleeper Agents. Les Sleeper Agents, c'est ce qu'ils utilisent pour infiltrer les plans dans lesquels ils vont à travers les portails. Fait que c'est des gens qui sont capables de se déguiser au peuple qui vont infiltrer pour voler leur machine.
Oh, ouais.
Sleeper Agent, un noir pour un 3-3. Quand il rentre en jeu, tu le donnes à un de tes adversaires et à chaque upkeep, il fait 2 de dégâts à celui qui le contrôle. Un genre de cadeau empoisonné.
Ouais.
Mais ça, d'un point de vue storyline, c'est fucking cool. Tu sais, de véhiculer autant là, le message à travers la mécanique, c'est je trouve ça nice. Puis le personnage qu'on voit là-dessus, c'est Xantcha. X-E-N-T-S-H-A. C'est un Sleeper Agent créé par la Phyrexie, mais elle a un défaut de fabrication.
Bon.
Sur la carte Victimize, deux colorless, un noir, un sorcery, tu prends 2 créatures dans ton graveyard, tu sacrifies une créature, dans le fond, Xantcha, tu l'envoies aux poubelles, puis tu peux prendre ces 2 créatures-là en jeu tapé. Ce que ça représente, c'est le prêtre de Yagmoth, là, il voit que Xantcha sort de l'espèce de... On pense que c'est très Blade Runner, hein? Répliquant, là, c'est très basé là-dessus. Puis il voit qu'elle a un défaut de fabrication, fait qu'il apprend puis il la jette au vidange, au graveyard. Lis-nous le flavor text, Tommy.
The priest cast Xantcha to the ground. It is defective. We must scrap it.
Puis Xantcha, elle va avoir comme un... c'est pas cette carte-là, je vais le montrer tout de suite, excusez-moi. Elle va avoir comme un genre de moment de comment on dit ça, là? C'est de l'auto...
Détermination?
Ouais, tu sais, que tu peux comme agir sur ta vie, dans le fond.
Ah, ouais.
Parce que tu sais, c'est des machines, sinon. Hein? Fait qu'elle va se rebeller. T'sais, au lieu de se laisser tomber dans les vidages, elle va devenir un rebelle de comic book des années 90.
Cyberpunk. Mais ça aurait été cool qu'elle spark, elle. Ça aurait été un personnage cool de Sparky.
Mais non, parce que ça l'aurait mis à égalité avec.
Ouais, non, mais dans le temps, là.
Les petits gars, dans le temps, ils étaient pas encore prêts pour ça.
Non, c'est ça.
Mais sais, t'as le début du personnage de Xen'Sha. Puis, ce qu'elle va faire, Xen'Sha, c'est que... ça, c'est une carte qui vient de Stronghold, mais elle fait mention dans Urza Saga. Les machines, j'avais mentionné, ils fonctionnent avec des Power Stone, hein, j'avais mentionné. Puis, sur la Phyrexie, ils ont upgradé les Power Stone. Ils font des Earth Stones, des Rush Cœurs. Puis, comme Earth Stone coûte 3 colorless, les Activated Ability de toutes tes créatures coûtent 1 de moins.
OK, ça.
Fait que dans le fond, le minimum qu'ils peuvent aller, c'est 1. C'est juste une petite carte de rien du tout, mais qui présente cette espèce d'évolution-là de Mana Rock, dans le fond. Xen'Sha, elle va voler des Earth Stones. C'est Ill-Gotted Game. Où ce qu'on voit Xen'Sha qui se pousse avec derrière elle des créatures de la Phyrexie qui essaient de la rattraper. 2 colorless, 2 noirs. Tu removes Ill-Gotten Game from the game. Puis tous les joueurs doivent discarder leurs mains et après ça placer 3 cartes de leur graveyard dans leurs mains.
C'est
comme un genre de switcheroo.
Ouais, c'est comme spécial, non?
Ouais. Fait que j'ai oublié, là, ils l'ont pas bien montré sur les cartes, mais c'est que Xen'Sha fait la rencontre de Urza qui est en train de faire la guerre à la Phyrexie.
Ben, tu vois Urza en arrière.
Là, ouais, c'est ça. Sur Ill-Gotten Game, on voit que Urza, avec son staff, là, puis dans son power armor, est en train de retarder les Phyrexiens pendant qu'elle sauve d'une tour Phyrexienne avec là, les Earthstone que je parle. On voit, elle les a dans la main. Fait qu'elle change de side, elle devient le sidekick de Urza.
C'est beau ça!
Ouais, tu sais, c'est quand même cool.
Ben, c'est très bande dessinée-esque.
Oh, oui.
On a eu 2 artistes de bande dessinée que j'ai spotés dans les arts jusqu'à date. Là, on avait un monsieur de Howard the Duck, puis je pense que t'avais.
C'était quelle carte ça?
Quand elle se fait garocher à terre.
Victimize?
Ouais.
Ouais, c'est très comic book, hein.
Val Maillet.
C'est la hotline qui est là. Puis je pense que la dernière à te montrer, je pourrais pas dire, mais je suis pas mal sûr qu'il vient de l'époque où que les Britanniques sont rentrés chez Marvel avec Judge Dredd. Puis, en tout cas, j'ai des vibes de ça, faudrait que je fasse des recherches.
Ouais, c'est très dark. J'aime comment il a peinturé sa face, là, les triangles. Qu'on voit pas ses yeux. Là. Puis, t'sais, quand tu regardes la carte, tu remarques tout le temps Xen'Sha, mais tu vois pas Urza du premier coup d'œil. Ça, c'est cool. C'est comme une histoire, une histoire. Là, tu sais, comme je mentionnais, ça va mal pour Urza. Il commence à être de plus en plus corrompu, en fait. Parce que son armure commence à plus être capable d'absorber toute la merde qui se passe. C'est la carte Corrupt. Corrupt, 5 colorless, 1 noir. Ça fait 1 dégât à toutes les créatures que tu contrôles et les joueurs pour chaque swarm que tu contrôles. C'est comme un pestilence de tantôt, mais en sorcery.
Contrôlé, ouais.
Puis en plus, il draine le dégât comme un Drain Life. Lis-nous le flavor text, Tommy, avec la voix que tu as.
Crushed Urza's mind and Urza's world convulsed. Yogma, t'es trop fort. Sauve-toi.
Ouais. Fait que Urza va être comme commencer à être. Tu sais, comme. Il va péter bientôt, comme on dit. Il va faire le Planar Void. Il se rend compte là, qu'il va pas réussir à battre les Phyrexiens. Fait qu'il pogne Xen'Sha par la main et il a Planeswalk avec lui. Pendant qu'il est en train de fondre là, en Corrupt. Planar Void, c'est encore la thématique des enchantements d'Urza Saga. Un noir, à chaque fois qu'une carte va dans le graveyard, tu la removes from the game. Lis-nous le flavor text, Tommy.
Planeswalking isn't about walking. It's about falling and screaming, yo.
C'est Xen'Sha
qui parle à Urza. Il est devenu un Phyrexian Outcast au lieu d'être un Sleeper Agent.
Oui.
Puis, on voit sur la carte Corrupt que je parlais tout à l'heure, Le ciel en arrière de lui merge 2 endroits. Parce que, tu sais, il était dans la 4e sphère de la Phyrexie. Puis là, on remarque un peu en arrière. Je sais pas si tu remarques, Jonathan, il y a une espèce de dessin derrière sa jambe.
Ouais, il y a une structure.
La structure, tu la reconnais-tu?
Fait comme ça, je te dirais que c'est l'autre, le plan où c'est qu'il y avait les tours, mais non, je peux pas le dire.
Non, c'est. Il se ramonce, en fait. C'est le plan de Serra. Fait qu'il comme il planeswalk au hasard et dans le fond, c'est les voyages de Dante. Il va tomber avec Xen'Sha dans la main sur le plan de Serra. Le fameux Serra Angel, 4-4 flying pour 5 vigilance. Là, tu sais, c'était tellement populaire à l'époque cette carte-là qu'ils se sont dit c'est sûr que le blanc, ça va se passer tout autour de l'histoire de Serra. Puis, c'est ce qu'on va aller voir la semaine prochaine.
Wow! C'est ça! C'est fini?
Oui!
Ah, ben merci beaucoup, Jason. C'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ça. Ouais, là, dans le fond, c'est Urza qui s'est rendu le plus deep dans la Phyrexie. On ne sait pas trop c'est quoi qu'il y a après. La tombe de Yawgmoth, puis tout. Il est arrivé au quatrième, puis on se prend au
neuvième. Il y en a neuf.
Qu'est-ce qu'on va faire avec
ça? Si vous me permettez, je veux juste dire, la carte que je cherchais tantôt, c'est Infernal Spawn of Evil.
Ouais. Je m'en suis rappelé en la regardant.
Oui, c'est l'hamster.
C'est l'hamster avec son petit. Puis c'est un Spencer.
Bon, moi, je l'aime bien, genre.
Il peut continuer à faire ça. Il devrait faire des cartes de Noël, tiens. Fais ça, Ron Spencer, il est trop tard. Hey, merci, les gars. On a bien fait ça. Merci à Joe d'être passé.
Ça fait plaisir.
Et merci, Andy Jacques. Hein, on se voit en fin de semaine pour le draft.
C'est-tu en fin de semaine déjà?
Ben, c'était la fin de semaine du 2. C'est toi qui avais choisi.
Ça va être ça.
All right. Et merci Jason aussi pour ce très bon dossier sur les Phyrexiens. Il a fait 5. OK, parfait. Okay. Ça va nous amener à remercier Martin Godette de podcast.com au montage. Merci aussi à Bonne, à l'adversaire. Et on est disponible sur Spotify. Mon nom est Tommy Godette. Et ouais, je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascou possible.
De la famille H2O Web Media.